Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
Donald Trump est donc devenu hier le premier président des États-Unis à être mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès, une semaine avant la fin de son mandat qui s'achève dans un climat d'extrême tension. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée en faveur de cet impeachment historique par 232 voix contre 197. Le milliardaire américain cédera sa place le 20 janvier à Joe Biden, 78 ans, accusé... C'est Donald Trump qui est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole. Assaut qui a fait 5 morts et ébranlé, semble-t-il, la démocratie américaine. Il doit partir, il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons. C'est ce qu'avait déclaré peu avant Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, l'accusant d'avoir incité à cette insurrection, cette rébellion armée, ce qui justifie donc cette mise en accusation. Ce vote marquera l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump. Il appartient désormais au Sénat de le juger, mais ce procès ne s'ouvrira pas avant l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Cela soulève évidemment quantité de questions, parce qu'au-delà de l'aspect institutionnel, c'est le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir de Facebook, de Twitter, c'est aussi le climat de purge qui règne aux États-Unis contre tous ceux qui ont soutenu Donald Trump, à l'image du magazine Forbes, qui dit aux entreprises qu'il dénoncera en fait toutes les personnes qui recycleraient des professionnels ayant travaillé pour Donald Trump. Donc beaucoup de questions se posent, avec évidemment pour nous en ligne de mire, est-ce qu'il y a des conséquences pour la France et pour la liberté d'expression d'une manière générale? Pour en parler, Thomas Flichy de Lanneville et Gérald Olivier. Thomas Flichy de Lanneville est responsable de la chaire géopolitique de Rennes School of Business. Il a publié Le Retournement Trump. Et Gérald Olivier, journaliste et spécialiste des États-Unis, il anime le blog France-Amérique, Sur la route de la Maison-Blanche, son dernier opus. Bonjour Thomas Flichy de Lanneville.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour Gérald Olivier.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres ce matin. J'espère que la liaison est bonne. Vous n'êtes pas aux États-Unis, mais on est ce matin comme si vous étiez en studio. C'est le principe de la technologie aussi. C'est vrai que le distanciel peut faciliter parfois, grâce à de nouvelles technologies, une présence plus proche, si je puis dire. Alors, quelle analyse d'abord faites-vous de la situation présente après ce que l'on a connu hier soir? J'aimerais d'abord avoir votre première perception de la situation que vivent les États-Unis en ce moment, Gérald Olivier ou Thomas Flichy de Lanneville? Thomas Flichy.
Les États-Unis sont un empire qui a été secoué par un traumatisme et peut-être l'amorce d'une guerre civile. Les empires, lorsque un empereur part, eh bien, il y a deux processus. On connaît ce processus à Rome. C'est soit la divinisation de l'empereur, soit la damnation de sa mémoire, la damnatio memoriae. Pour Trump, ce sera la damnation de sa mémoire.
Damnation organisée par ses adversaires, organisée par l'ensemble du système américain.
Effectivement, Trump a pris le pouvoir contre le système américain, son système financier, son système médiatique. Il a été la voix des déclassés et il a tenté de prendre le pouvoir, mais n'a pas réellement réussi au cours de son mandat. Il était trop subversif et trop anti-système pour pouvoir se maintenir une deuxième fois. Par conséquent, on peut considérer qu'il a été débranché.
Gérald Olivier, il a aussi été débranché, donc c'est ce que vous pensez également, Gérald Olivier ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je crois qu'il y a du côté des démocrates une soif de revanche et une ivresse du pouvoir. Et le fait qu'il contrôle aujourd'hui à la fois l'exécutif, ce sera dans une semaine, mais il contrôle le législatif. Il y a une volonté de se venger de l'humiliation subie en 2016. Les démocrates et un certain nombre de gens qui les soutiennent n'ont jamais accepté en vérité cette élection de Donald Trump contre Hillary Clinton. Comme le soulignait votre invité, il n'est pas quelqu'un de leur milieu. Il a été élu pour, comme il le disait avec son vocabulaire à lui, assécher le marais, c'est-à-dire lutter contre un système relativement corrompu qui domine à Washington. De ce point de vue-là, il a échoué et aujourd'hui, le système le châtie pour ce qu'il a osé faire. Et donc, on a une attaque coordonnée qui d'ailleurs va pour moi au-delà de la personne du président, mais qui consiste à faire taire, à éliminer totalement et a tué le mouvement Make America Great Again, c'était son slogan, et ça a correspondu à sa politique pendant 4 ans. Et donc vous avez une attaque coordonnée de la part des politiques, des médias, de ce qu'on appelle le Big Tech, les GAFAM, comme on dit, pour faire taire, pour réduire au silence un certain nombre de gens. Je ne pense absolument pas que ce soit la bonne solution, mais c'est ce que l'on observe.
Alors, une question que je vous pose à tous les deux sur l'actualité immédiate. Il n'y aura pas de vote donc au Sénat avant l'entrée en fonction de Joe Biden. Est-ce que la suite de l'événement est déjà écrite? Est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on peut dire au regard de ce que l'on peut pressentir que Donald Trump sera définitivement mis en accusation et donc empêché de se représenter dans 4 ans? Est-ce que ça vous paraît écrit d'avance, Gérald Olivier et Thomas Flichy-Lanneville?
Alors non, c'est pas écrit d'avance du tout. Je rappelle, vous l'avez un petit peu évoqué, mais je rappelle que la destitution, enfin l'impeachment en anglais, se déroule en 2 actes. Vous avez d'abord le vote par la Chambre des représentants. C'est un vote à la majorité simple. Il a eu lieu hier. Et ce vote consiste en quelque sorte en un acte d'accusation suivi d'un procès devant le Sénat. Et ce procès doit être sanctionné par un vote à la majorité des 2/3 pour confirmer la condamnation du président. Les démocrates n'ont que 50 sièges au Sénat. Je n'envisage absolument pas que la moitié des républicains se retournent contre le président. On en a vu que certains hier l'ont fait à la Chambre des représentants, mais il n'y en a pas plus de 10 qui ont rejoint le camp démocrate. C'est quand même très peu. Il y a une grande loyauté vis-à-vis de Donald Trump au sein du parti républicain. Donc l'issue du procès n'est absolument pas acquise d'avance. Et je voudrais ajouter par ailleurs que l'acte d'accusation est incitation à la violence. Or, on découvre de plus en plus au fur et à mesure de l'enquête que les violences du Capitole le mercredi 6 juin, même si elles ont eu lieu après le discours du président, elles avaient été planifiées à l'avance, auquel cas le président ne peut pas inciter un événement qui a déjà été organisé et préparé. Et l'accusation s'effondre. Donc pour moi, l'issue du procès, elle est loin d'être claire.
Thomas Flichy ?
Il s'agit pour moi d'un procès fracassant et symbolique, mais c'est un procès d'autant plus fracassant et symbolique qu'il en cache une multitude d'autres. Ce sont les actions en justice qui ont été engagées par Donald Trump à l'encontre de son concurrent électoral, au sujet des multiples fraudes avérées de la campagne électorale. Par conséquent, ce procès est en réalité une contre-offensive judiciaire à des actions justice multiples et locales qui vont donner lieu à des procès dans la longueur aux États-Unis pendant les premiers mois de la présidence de Joe Biden.
Mais je vous pose à tous les deux la question également. Quand on se place du point de vue démocrate, on peut aussi considérer que cette fin de mandat vue par Donald Trump ou organisée par Donald Trump est hallucinante dans la mesure où il n'y a pas de preuves matérielles de la fraude qu'il ait subie, donc que sa victoire ne soit pas méritée, que sa défaite ne soit pas justifiée. On n'a pas de preuves qu'il a gagné l'élection comme il le prétend, et que l'invasion, l'envahissement, la manifestation devant le Capitole apparaît comme une sorte de coup de force, voire de coup d'État, de rébellion armée. On peut comprendre aussi la réaction extrêmement vive des démocrates, non ?
On peut la comprendre.
Alors Thomas Flichy et Gérald Olivier.
On peut la comprendre. Il faut bien voir que Trump est un personnage, on pourrait dire un personnage celtique. Son hérédité celtique, violente et créatrice, s'est révélée plus puissante que sa lourdeur germanique. Trump est comme nous savons que l'Empire britannique a été fait par des conquérants écossais. Trump est une sorte de soldat perdu de l'Empire, naufragé en plein 21e siècle. Et les lois de l'hérédité sont capables de tels détours. On se souvient de Bonaparte, ce condottiere italien de la Renaissance faisant irruption en plein 18e siècle. Trump est un bourgeon cueilli dans cette forêt celtique, et il porte en lui à la fois une violence et une créativité qui a failli ébranler et failli renverser en fait le système américain. Ça explique le dépit et la colère de ses adversaires. Maintenant, en ce qui concerne les preuves des fraudes, qu'elles soient avérées ou pas, il faudra attendre, je pense, la bataille judiciaire devant les tribunaux, ou en tout cas les multiples batailles judiciaires pour avoir une vision un peu plus claire.
Pour vous, ce n'est pas encore certain que Joe Biden soit président.
Il va être président. En revanche, il va être attaqué, une fois président, pour fraude électorale en de multiples endroits des États-Unis.
Gérald Olivier ?
Alors, plusieurs choses. Hein. En vérité, non, je ne pense que les démocrates n'ont absolument aucune justification dans ce qu'ils font. Et moi, j'irais même plus loin. En fait, les démocrates ont tendu deux pièges à Donald Trump et aux républicains. Et les républicains et Donald Trump sont tombés à pieds joints dans ces deux pièges. Le premier piège, c'était celui du vote par correspondance pour l'élection présidentielle. C'est un vote qui a été favorisé par la pandémie de coronavirus, et sous prétexte que des gens ne pourraient pas se déplacer jusqu'au bureau de vote, eh bien, on leur a fait parvenir par courrier des bulletins qu'ils n'avaient qu'à retourner pour voter. Et ce système de vote, qui d'ailleurs est interdit en France depuis plus de 30 ans, ce système de vote favorise les fraudes. On sait très bien qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des irrégularités, car en même temps que les démocrates ont donc multiplier les envois de bulletins, ils ont éliminé les contrôles pour vérifier la validité de ces bulletins. L'élection, elle se résume à deux phrases. Les démocrates veulent compter tous les votes et les républicains veulent compter tous les votes légaux ou tous les votes légitimes. Et à partir du moment où vous n'éliminez aucun vote, vous parvenez à un chiffre extraordinaire comme celui des 81 millions d'Américains qui ont voté pour Joe Biden. Donc je ne sais pas s'il y a un nombre de bulletins suffisant pour inverser le résultat. L'écart est conséquent. Néanmoins, des exemples d'irrégularités, on en a eu des dizaines qui sont effectivement, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, qui sont effectivement avérés. Donc il y a eu un piège électoral. Le second piège, c'était celui du Capitole. C'est-à-dire qu'en vérité, Donald Trump a fait un cadeau extraordinaire aux démocrates parce qu'il leur a offert les images qu'ils voulaient voir depuis 4 ans. Il a réalisé la prophétie démocrate, à savoir que si on élisait Trump, on aurait le chaos, on aurait un assaut contre les institutions, qui est totalement faux. Simplement, il s'est fait piéger et son mouvement s'est laissé aller par la colère ou l'émotion à un acte qui est pour moi tout à fait injustifiable et condamnable. Mais malheureusement, cet acte, ces deux heures de chaos vont être les images qui vont rester des 4 ans de la présidence de Trump, alors qu'au cours des 3 premières années, il avait réalisé des choses qui étaient relativement extraordinaires et même impressionnantes et qui vont être totalement balayées par cette image-là. Donc là, c'est lui qui a fait un cadeau à ses adversaires. Il leur a donné le bâton pour se faire battre.
Quel élément avez-vous, Gérald Olivier, et je pose la question aussi à Thomas Flichy, quel élément avez-vous pour dire qu'il s'est fait piéger au Capitole, que ce n'est pas lui qui a incité à l'insurrection ?
On sait aujourd'hui que cette insurrection, elle a été préparée. On commence à avoir des éléments d'enquête. Le FBI a révélé qu'ils avaient eu des informations comme quoi certains éléments qui allaient assister au discours, puisque le discours était prévu depuis plusieurs semaines, avaient prévu déjà de se rendre ensuite au Capitole. On a découvert des messages sur Internet. La police de New York a été informée que certains éléments radicaux avaient prévu des actes de violence. On a retrouvé 2 bombes artisanales qui ont été laissées dans une chambre démocrate et dans l'autre républicaine à l'intérieur du Congrès. Donc on ne vient pas à une réunion politique avec des bombes, sauf à avoir planifié à l'avance une forme de violence contre telle ou telle cible. Donc par ailleurs, la police du Capitole n'a pas été renforcée et a laissé rentrer les manifestants, et aujourd'hui on est à se poser des questions si de ce côté-là il n'y a pas eu une faillite sécuritaire et une faillite sécuritaire délibérée, dans la mesure où aucun renfort n'avait été préparé pour protéger le bâtiment, alors que l'on savait qu'il y aurait une foule, et sans doute une foule relativement en colère, qui serait présente à quelques centaines de mètres de là. Donc voilà, vous avez tout un faisceau d'éléments qui permettent de penser que cet assaut, il n'est pas du tout spontané et il ne découle pas des propos qu'a tenu Donald Trump dans son discours.
Et Donald Trump n'était pas au courant, Gérald Olivier, Donald Trump n'était pas au courant qu'il risquait de se faire piéger au Capitole et que si on suit votre cheminement, ça pouvait être un piège pour le ferrer en fin de mandat et obtenir sa destitution.
Voilà, je ne suis pas sûr que Je ne suis pas sûr que Donald Trump ait bien manœuvré d'un point de vue politique, et je remarque simplement que dans les semaines qui ont suivi l'élection, il s'est enfermé dans sa bulle de déni quant au résultat, que le résultat soit justifié ou pas, que le résultat soit juste ou pas. Il y avait un résultat électoral. On était encore dans le processus de contestation tout à fait légitime, hein, aux États-Unis. L'élection présidentielle n'est pas terminée avant que le Congrès l'ait certifié. Donc on était encore dans cette fourchette, mais je pense que Trump était tellement enfermé dans sa bulle qu'il n'a pas vu le risque qu'il prenait à dire à ces gens, ben, vous allez m'écouter, puis après vous allez marcher jusqu'au Capitole. Je rappelle que dans son discours, il a dit, on marche jusqu'au Capitole, we go to, on va pas dire dans. Et donc il n'a pas du tout incité à l'assaut, il a incité à aller manifester devant, ce qui est parfaitement légitime à partir du moment où la manifestation reste pacifique. Et il n'a jamais encouragé la violence, il a dit, vous y allez peacefully, vous y allez pacifiquement.
Thomas Fléchy de la Neuville.
Je pense que l'irruption de l'Amérique intérieure, de l'Amérique conservatrice vers le Capitole, finalement vers cette côte mondialisée qui tourne le dos à l'Amérique profonde, c'est surtout un acte symbolique. Cet acte, il a été bien exploité par les médias, mais on sait que dans les heures qui ont suivi finalement ce déferlement de la foule sur le Capitole, Washington a été hermétiquement fermé, en fait donnant aucune possibilité d'un véritable coup d'État ou d'un retournement de pouvoir. Donc ce sera extrêmement difficile d'accuser Trump d'avoir fomenté un coup d'État contre lui-même, ou en tout cas afin de conserver le pouvoir. En réalité, la préparation, même s'il elle était réelle, n'avait pas pour but de prendre le pouvoir, mais c'était surtout quelque chose de symbolique. Quant à la question du vote électronique, sur laquelle je voudrais revenir un petit peu, nous avons en France fait des études assez précises et assez approfondies. Le CNRS a fait des études sur le vote électronique, et on en a tiré les conclusions suivantes, c'est que la dématérialisation du vote, le remplacement des urnes par des bulletins par des bits numériques, facilite le trucage systématique des scrutins et la réécriture décomplexée du réel. Et je voudrais citer les travaux de Chantal Engelhardt, hein, qui est chercheuse au CNRS, sur ce sujet. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la France n'a pas voulu introduire des machines à voter électroniques dans les scrutins de 2007-2008. Donc depuis longtemps, en fait, on connaît les dérives que cela peut amener.
Thomas Fléchy de la Neuville, quel avenir voyez-vous à Donald Trump ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fin de sa carrière politique ?
C'est la fin des Gracques, c'est la fin de Caius Gracchus, lui qui a voulu finalement électriser et qui est capable d'électriser les déclassés, alors même que l'Empire américain ou que le système actuel, et les GAFAM en particulier, ont pour but de les anesthésier. Donc nous savons que les grandes lois qui gouvernent une société avec ses courants et ses remous, ces grandes lois, ces limitations, mais l'imitation génère immédiatement une contre-imitation. Trump, c'est lui qui fédère et qui est capable de, par ses coups de fouet psychiques, d'électriser les déclassés, et surtout, c'est le maître de la contre-imitation. Donc, d'un point de vue politique, il est probable que sa carrière soit vraiment handicapée par des attaques qui vont maintenant se multiplier, puisque nous sommes au temps de la Lali. Donc, attaque, on l'a vu, financière contre son portefeuille, attaque judiciaire, débranchement électronique. Mais ça n'empêche... Il n'empêche, à moins qu'on aille jusqu'à des menaces physiques à son encontre, il peut rester une tête de pont, un fédérateur, même vaincu, même à l'image de Vercingétorix, qui a jeté ses armes à César et qui est porté derrière le char de son triomphe pour finir étranglé dans une prison à Rome. Trump peut continuer à fédérer après sa défaite et après sa mort politique.
Gérald Olivier, vous dites que le procès donc de Donald Trump devant le Sénat, il n'est pas du tout sûr que les Républicains se rallient à la cause des démocrates comme a pu le faire la dizaine de représentants républicains. Mitch McConnell a quand même dit qu'il n'excluait pas de voter sa condamnation. Mitch McConnell, c'est le représentant des Républicains à la Chambre des représentants, si je ne me trompe pas, hein, je parle de mémoire.
C'est le chef de la majorité républicaine, voilà, au Sénat.
Est-ce que, si justement Donald Trump gagne son procès en quelque sorte au Sénat, est-ce que l'effet ne va pas être contre-productif pour les démocrates de ne pas arriver à destituer le président sortant ?
Ça, c'est possible. Je pense que surtout, c'est un procès qui va encombrer les premières semaines de la présidence de Joe Biden. Joe Biden a beaucoup de mal à s'affirmer auprès du public américain. Encore une fois, il a reçu 81 millions de suffrages, mais on ne sent pas un soutien ou même un intérêt pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait de la part des Américains. Quand il y a une conférence de presse qui est retransmise à la télévision, les taux d'audience sont absolument dérisoires et je dirais même inquiétants. Donc voir les premières semaines qui sont si importantes, les fameux 100 premiers jours encombrés par le procès de son prédécesseur, ça me paraît être un boulet politique absolument énorme. Par contre, encore une fois, je pense que les images, et je dis bien les images du 6 janvier, vont être détrimentales au futur politique de Donald Trump. Qu'il soit destitué ou pas, s'il tente de revenir dans 4 ans, eh bien, il y aura face à lui un mur qui d'ailleurs sera érigé en partie par des républicains en disant non, c'est pas possible, parce que si on se remet avec cette personne, eh bien, on aura à nouveau les événements que nous avons eus de 2016 à 2020 et qui ont mené à cet assaut contre le Capitole. Ça reste quelqu'un de très charismatique. Il a derrière lui un mouvement avec des gens qui l'adorent, qui l'adulent véritablement d'une certaine façon. Et les républicains, ben, une grande partie d'entre eux devront se présenter à nouveau devant les urnes dans 2 ans, 4 ans ou 6 ans pour les sénateurs. Et ce qu'ils font aujourd'hui, les électeurs s'en souviendront. Et je suis personnellement convaincu qu'il n'y aura pas une majorité de républicains pour se retourner contre Trump et acter sa condamnation.
C'est votre conviction également, Thomas Fischi ?
Il est possible que Trump, effectivement, soit soutenu.
Ah, on vous a perdu apparemment, Thomas Fischi de La Neuville, auteur du retournement Trump. Alors je me retourne du coup, puisque c'est de circonstance, vers Gérald Olivier pour notre dernière question. Gérald Olivier, est-ce qu'aujourd'hui, dans le Parti républicain, il y a des éléments qui peuvent émerger pour succéder à Donald Trump, rapidement ?
Ah, bien sûr. Le principal s'appelle Ted Cruz. Ted Cruz était candidat à la présidence en 2016, contre Donald Trump d'ailleurs à l'époque. Il n'avait pas hésité à dire que Trump avait une tendance à la mégalomanie et au mensonge. Depuis, il s'est rallié à Donald Trump. Il est devenu un de ses principaux défenseurs. Ted Cruz est un sénateur du Texas. C'est lui qui, juste avant les événements du 6 janvier, avait proposé que le Congrès mette en place une commission pour revenir sur les fraudes avérées ou pas, mais en tout cas dénoncées par certains, afin de légitimer Merci. L'élection de Joe Biden, que la lumière se fasse sur ce sujet-là. Et je pense qu'il fait partie du futur du Parti républicain.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Gérald Olivier, sur la route de la Maison-Blanche, aux éditions Jean Picolec. Vous êtes spécialiste des États-Unis, animateur du blog France-Amérique et journaliste. Thomas Fischi de La Neuville, responsable de la chaire géopolitique de Rennes School of Business, agrégé d'histoire, docteur en droit. Le retournement Trump aux éditions du CERF qui a été publié en 2017. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.